bonsoir. Entrons ensemble dans le temps du débat d'été, comme tous les soirs, sur France Culture, du lundi au vendredi, de 18h15 à 19h. À l'ordre du jour ce soir, qu'apporte la fiction au journalisme? L'apparition récente de deux romans, l'un signé du correspondant du Monde à Moscou, Benoît Vitkine, prix Albert Londres 2019, l'autre du journaliste David Dufresne, qui a suivi les manifestations des Gilets jaunes pendant toute une année et alerté l'opinion sur les violences policières, nous ont donné envie de nous poser la question de l'apport de la fiction au journalisme. À cette actualité s'ajoute le succès non démenti depuis plusieurs années de la revue dessinée, qui prend à bras-le-corps des enquêtes journalistiques transcrites dans le langage de la bande dessinée et du roman graphique. Vous l'avez compris, avec nous ce soir Amélie Mouget, rédactrice en chef de la revue dessinée. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Benoît Vitkine, donc journaliste français, correspondant du Monde et lauréat du prix Albert Londres de la presse écrite. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec vous également David Dufresne, journaliste, écrivain, documentariste et auteur de Dernière Sommation, donc paru à la rentrée dernière. Et c'est évidemment votre histoire de journaliste que vous avez transcrite d'une certaine façon, un journalisme sur Twitter, tel que vous l'avez accompli pendant toutes les manifestations des Gilets jaunes, et on va discuter de toutes ces questions avec vous trois. Mais d'abord, un grand ancien, il s'appelle Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde.
L'objectivité, dans la mesure où on pense que c'est une espèce de perfection, de correspondance parfaite entre ce qui est dit et ce dont on parle, je crois en effet que c'est un peu chimérique et qu'il vaut mieux tenir compte de ce qu'on pourrait appeler une relativité de l'objectivité, parce que on n'arrive jamais à appréhender tout le réel. Et ensuite, il passe à travers chaque commentateur ou chaque compte-rendu comme à travers un prisme, et il y a toujours un certain angle de déformation.
Voilà, c'était Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, face à Jacques Chancel au moment de sa retraite. C'était en décembre 1969. David Dufresne, on n'arrive jamais à appréhender tout le réel. Qu'est-ce que vous pensez de cela en tant que journaliste, documentariste, écrivain, et donc celui qui a transcrit son expérience sur les manifestations des Gilets jaunes dans un roman Dernière Sommation?
C'est indéniable. Beuve-Méry a parlé de prismes. On met des prismes sur la réalité. Le journalisme revendique d'une certaine manière le prisme. Alors il appelle ça l'objectivité, le factuel, etc., etc. La littérature, au contraire, elle enlève les filtres. Elle enlève le prisme. Ou si elle ne l'enlève pas, elle le revendique. Là où le journalisme se donne, on voit bien qu'il parle de chimère autour de ça. Bon, en fait, à un moment donné, on peut, quand on est journaliste, se sentir un peu à l'étroit dans cette idée comme ça d'objectivité, de factuel, de ça peut devenir un peu non pas lassant, mais très restrictif, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez au Monde aujourd'hui, Benoît Vitkine, de cette question, à la fois de cette voix de Beuve-Méry qui nous vient de 40 ans ou 50 ans maintenant, puisque c'était en 1969, mais aussi de ce glissement vers la libération de cette parole supposément objective du journaliste?
Eh ben, je trouve que mon ancien directeur parle d'or, et je serais à l'inverse moins d'accord avec David Dufresne, parce que non, moi je ne vois pas ces cadres. Que je n'appellerai pas, comme fait Hubert Beuve-Méry, il fait la même mise en garde, j'appellerai pas ces cadres-là de l'objectivité, je dirais plutôt des choses beaucoup plus simples à définir que sont l'honnêteté, le sérieux. Je pense pas que ça puisse devenir restrictif ou que ça puisse brider. Le prisme, en revanche, je suis entièrement d'accord. Et je suis aussi d'accord qu'il doit être revendiqué, pas forcément, mais assumé et présenté comme tel. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête. Mon journal ne prétend pas une objectivité complète. Il prétend, là encore, à l'honnêteté, au sérieux. Mais il affiche, en revanche, un certain nombre de valeurs. Et je pense que vous faites la même chose, vous, dans votre travail, qui est d'afficher des valeurs qui est en quelque sorte un point de départ d'où l'on part pour parler d'une situation.
Amélie Mouget, vous êtes rédactrice en chef de la revue dessinée avec une complexité en tant que journaliste. Vous avez des dessinateurs qui travaillent avec les journalistes qui font les enquêtes pour la revue dessinée, puisque la particularité de cette revue, c'est justement de mettre en scène par le roman graphique l'actualité. Eh bien, ça doit encore complexifier les données qui ont été présentées par vos deux acolytes autour de cette table, parce que il y a un autre intervenant en plus de l'écrivain ou du journaliste devenu écrivain.
Mais
En un sens, par rapport à cette question de l'objectivité, j'ai l'impression que ça simplifie. Parce que le fait d'avoir recours au dessin, ça pose une subjectivité incontestable et qui nous saute aux yeux immédiatement. La bande dessinée, ça permet de dire c'est moi qui coupe, c'est moi qui cadre, et il y a une mise en récit. Elle est plus
évidente,
elle est explicite, et on a une forme de liberté accrue du fait de ce langage qui est celui de la bande dessinée. Donc le prisme dont on parlait tout à l'heure, il est assez évident, et on arrive avec ce jeu du dessin à avoir plusieurs niveaux de lecture, à avoir un contrat avec le lecteur qui est: tout ce qu'on vous raconte est vrai, mais il y a une mise en récit, et la bande dessinée vous montre qu'il y a une mise en récit.
Alors, tout ce qu'on vous raconte est vrai, mais les dialogues sont évidemment reconstitués. J'imagine que c'est difficile, puisqu'on fait une bande dessinée, de mettre des phylactères sans rien mettre dedans. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien faire dialoguer les personnages. On n'a pas assisté à toutes les scènes que l'on raconte dans la revue dessinée.
Oui, il y a une part évidente de reconstitution. Par contre, pour tout ce qui est porteur de sens et tous les éléments qui donnent à l'enquête sa profondeur, son ampleur, tous les éléments factuels sont vérifiés, sont rigoureusement... on s'attache à la rigueur des faits. Par contre, si deux ou trois personnes nous ont raconté une scène, qu'on a recoupé les informations, on va pouvoir reconstituer cette scène. Et qu'importe si la couleur du papier peint n'était pas la bonne, tout ce qui est dans la bouche de personnages réels a été prononcé par eux à un moment ou à un autre. Et après, on utilise des artifices de fiction pour dire au lecteur d'où viennent ces informations.
Le chaos sur les Champs-Élysées. À quelques mètres de l'Arc de Triomphe, la colère des gilets jaunes se déchaîne. Le face-à-face entre les forces de l'ordre et les manifestants tourne à l'émeute. Image saisissante de la plus belle avenue du monde, transformée en barricade. Dès l'aube pourtant, alors même que les gilets jaunes ne sont pas encore sur place, le dispositif de sécurité est conséquent. Mais à 10 heures, la situation s'envenime. En bas des Champs-Élysées, les forces de l'ordre bloquent l'accès à la place de la Concorde où les manifestants veulent se rendre. Aux tirs de projectiles répondent lance à eau et gaz lacrymogène qui attise la colère des gilets jaunes.
On ne bloque pas, on marche, et ils nous tirent des bombes lacrymogènes depuis tout à l'heure.
On n'a aucune arme dans les mains, on n'a rien.
Voilà donc pour cet extrait de JT de France 2. C'était le 24 novembre 2018. David Dufresne, quand vous vous mettez à écrire Dernière Sommation, vous avez vécu une année absolument intense, oui, à suivre toutes les manifestations des Gilets jaunes, avec votre hashtag Allo Place Beauvau qui mentionnait chacune des violences qui étaient intervenues dans ces manifestations de la part des forces de l'ordre. Vous êtes donc intervenu dans ce conflit en étant témoin, et vous transformez dans ce roman qui est le vôtre en un autre personnage. Vous ne parlez pas en disant je, vous vous appelez Étienne Dardel. Il y a les personnages composés qui sont des gens que vous avez pu croiser dans votre, dans votre parcours de journaliste. Qu'est-ce que vous vouliez faire en changeant les noms, en changeant les attributions et en racontant cette histoire?
Ben, justement, me libérer des contraintes du prisme, c'est-à-dire que il y a effectivement beaucoup de personnages dans ce roman qui sont en fait des personnages composites, c'est-à-dire le syndicaliste de police et plusieurs syndicalistes à la fois. Les gens de la préfecture, ce sont des personnages fictifs, mais qui sont en fait tous le réceptacle de plusieurs personnes. Voilà, la suite de tout un tas de gens que j'ai rencontrés, etc. Et que je rencontre encore maintenant. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnages, notamment la préfecture de police de Paris, que je voyais au moment où j'écrivais. Et qui me voyaient en tant que romancier, et pas du tout en tant que journaliste. Ce qui veut dire qu'ils me parlaient vrai. Tous les policiers que je vois me parlent plus vrai que si j'écrivais pour Libération, Le Monde ou Mediapart, où là, tout d'un coup, il faudrait avoir des éléments de langage, il faudrait avoir une façon de dire les choses sans les dire, etc. Tandis qu'à un romancier, on dit les choses. L'autre point, c'est le off. Ce off, cette idée que les gens vous parlent, mais en vous disant surtout...
D'ailleurs, c'est une part de fiction dans le journalisme classique, pour être dire. Le off, c'est une fiction, puisqu'en fait, on dit...
Absolument.
Selon les milieux proches du pouvoir, selon le, dans l'entourage du Premier ministre ou du Président de la République... Voilà ce qu'on dit. C'est déjà une fiction, puisqu'on ne sait pas qui a parlé, dans quelles conditions il a parlé, etc., etc.
Et moi, personnellement, ça me fatigue. Parce que je trouve qu'il y a une rupture de contrat. Et alors que le roman est beaucoup plus clair, justement, le roman est beaucoup plus clair par rapport à ça, c'est-à-dire que on est traversé par le réel, on est emporté par quelque chose et non pas le réceptacle d'intérêt des uns et des autres.
Et pour vous, Benoît Dittkin, quand vous vous lancez dans l'écriture de Donbass, alors que vous êtes correspondant du Monde, qui raconte effectivement cette région à l'est de l'Ukraine, qui donc est partagée entre séparatistes pro-russes et puis les forces ukrainiennes au milieu d'une ville qui est une petite bourgade qui est séparée par une sorte de mur et qui voit la ligne de front tout près. Quand vous racontez cette histoire, c'est parce que vous ne pouvez pas la raconter comme cela dans les pages du Monde ?
Si, je suis resté assez fidèle à ce que j'ai raconté dans les pages de mon journal, mais je ne peux pas le faire autant. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très simple, quand je vais voir des gens sur le terrain, mon travail, la place que j'ai dans mon journal, même si c'est sans doute un des journaux qui donne le plus de place au reportage, la place que j'ai fait que je suis obligé de m'intéresser à la dernière couche du traumatisme, la dernière couche des chocs de la vie qu'ils ont subi, qui est cette guerre dans le Donbass. Puisque c'est pour ça que je viens, c'est ça qui... c'est pas seulement ça qui intéresse le lecteur, mais c'est ça qui fait l'actualité en quelque sorte.
Et ça vous permet d'une certaine façon, puisque vous dites c'est la dernière couche, de remonter dans les couches précédentes.
Ça, c'est ce que permet le livre.
Votre héros a fait la guerre en Afghanistan. Il est donc policier aujourd'hui.
Surtout le choc collectif qui est le choc de la fin de l'Union soviétique, particulièrement dans cette région, la fin de l'homme rouge, qui a été mieux raconté que par moi dans la fin de l'homme rouge. Ce choc collectif qui est particulièrement présent dans cette région, qui est une région à l'époque soviétique d'élite, parce que minière, sidérurgiste, métallurgiste, et tout ça, je l'ai déjà fait apparaître dans des articles, mais je ne peux pas le faire apparaître autant, et je fais le même procédé que David Dufresne, c'est-à-dire de condenser plusieurs personnages. Alors tous les procédés sont possibles, il y a certains personnages qui sont des calques complets de personnages réels, d'autres qui sont totalement inventés, d'autres qui sont au contraire dédoublés en plusieurs personnages.
Je vous propose d'écouter un extrait de Donbass, votre livre, Benoît Dittkin, lu par Pascaline Bonnet de l'équipe du Temps du débat d'été.
Tout s'était écroulé en quelques années. Le pays tout entier, et avec lui les mines, les usines. Le siècle nouveau renonçait à la houille, la Chine déferlait sur les marchés. Les anciennes infrastructures soviétiques se révélaient caduques, dangereuses, peu productives. Le plan quinquennal s'inclinait devant l'économie de marché et aucun Stakhanov aux cadences merveilleuses n'aurait pu y faire quoi que ce soit. Les trois quarts des mines avaient fermé. Peu à peu, la végétation avait commencé à s'infiltrer dans les terrils abandonnés. Des touffes d'herbes et des arbustes timides poussaient le long des sillons de ruissellement. Il n'était plus question d'avenir radieux. Le présent tout entier se dérobait. Un présent douillet, rassurant, où l'on pouvait espérer marier une gentille fille et l'emmener une fois par an sur la côte de Crimée, où l'on gagnait sa croûte et sa boisson du samedi soir, où les barres d'immeubles étaient les mêmes pour tous, où l'on pouvait partir à la pêche en sachant que le pays et le foyer seraient toujours là, au retour. Dans ce monde-là, les villes s'appelaient anthracite, prolétaire, bonheur. On y construisait des jardins d'enfants, des hôpitaux, des tramways aux couleurs pastelles et naïves, comme des slogans révolutionnaires. Tout avait valdingué. Le Donbass s'était retrouvé d'un coup, comme une baleine échouée sur le rivage, rouillée, inutile, trop grand pour le pays nouveau et inconnu auquel il appartenait désormais.
Benoît Dittkin, ce qui est intéressant, c'est que vous reprenez une forme traditionnelle de l'enquête, puisque c'est l'enquête elle-même du policier. Policier qui est une sorte de substitut au journaliste, puisqu'il peut entrer partout, il peut aller voir les personnalités de sa ville sans aucun problème, comme le journaliste normalement doit pouvoir le faire aussi souvent. Et évidemment, ce policier comme substitut, c'est celui qui, comme le journaliste, raconte l'enquête, raconte comment on avance et on perce les brumes d'un mystère, pourrait-on dire.
À cette différence près que le journaliste, on se moque un peu de ses états d'âme, alors que là, le policier, c'est mon personnage. J'y suis attaché, et c'est même ce qui m'a attiré dans la fiction, c'est que je peux le bousculer, ce personnage. Dans mon travail de journaliste, les personnages sont bousculés par la réalité, et c'est mon travail de l'expliquer. Là, je peux rajouter des chocs supplémentaires qui permettent d'aller plus loin dans leur psychologie, dans leur histoire, dans leurs sentiments.
Amélie Mouget, la particularité, c'est que vous êtes rédactrice en chef d'une revue qui fait travailler beaucoup de gens. J'imagine que chacun et chacune des journalistes qui vient vous voir avec une idée de reportage dessiné, en l'occurrence, a sa propre vision, justement, de ce que doit être la limite entre fiction et journalisme, jusqu'où peut-on aller, etc. Est-ce que vous en discutez souvent, en tant que rédactrice en chef, avec ceux et celles qui viennent vous voir pour la revue dessinée ?
Ah oui, à peu près à chaque premier rendez-vous, à chaque moment où on constitue ces binômes journaliste et dessinateur, la question se pose.
Vous constituez le binôme, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez le dessinateur qui dessinera l'enquête menée par le journaliste, c'est ça ?
Tout à fait. En fonction du style graphique, en fonction de l'appétence pour les sujets des dessinateurs et dessinatrices. Et à ce moment-là, au moment où on aborde cette question de la fiction, en gros, nous, ce qu'on fixe comme ligne, c'est que on peut s'autoriser de la fiction, on peut le faire de manière parfois, on peut ressusciter Steve Jobs pour parler du poids de nos activités numériques, du poids écologique de nos activités numériques, donc on peut aller très loin, mais il faut que ce soit évident pour les lecteurs qu'on a recours à de la fiction. C'est-à-dire que il faut pas qu'on mette en scène un personnage réel qui serait en train de discuter avec un personnage de fiction et que le lecteur se demande mais est-ce que cette scène a vraiment existé, est-ce que ces paroles ont vraiment été prononcées.
Ah oui, ça c'est une sorte de pacte que vous faites justement, pacte journalistique et fictionnel.
Et il faut que ça clignote si c'est de la fiction, que ce soit suffisamment fantaisiste ou que ce soit suffisamment explicite qu'on.
Alors que. Vous voyez,
David Dufresne.
Ouais, moi, ce que j'aime, c'est l'ambiguïté. Parce que Trump, c'est la réalité. Enfin, c'est un personnage de fiction extraordinaire en même temps.
On a d'ailleurs fait une émission qui s'appelait « Trump est-il un personnage de fiction ?»
Vous voyez, si je prends une affaire qui m'a passionné, sur laquelle j'ai travaillé pendant des années, l'affaire dite de Tarnac, ces gens qui étaient accusés d'avoir déposé des fers à béton, etc., pour faire ralentir des combats de déchets nucléaires. Au bout de 10 ans de procédure et un procès hors norme, la justice décide de dire... Dans ses attendus, le groupe dit de Tarnac est une fiction. Pendant 10 ans, on nous a expliqué que c'était le danger, etc., etc. Des ministres, des présidents de la République, 3 présidents, vraiment. Et ça, je trouve, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est de passer par la fiction pour débusquer la partie fictionnelle de la réalité.
Amélie Mouget.
Alors que pour des affaires aussi dingues que celle de Tarnac, nous on a aussi utilisé le médium bande dessinée pour les raconter. On a fait Sarkozy, Kadhafi, des billets et des bombes, donc une affaire d'État. Et les dialogues sont dingues, les personnages sont dingues, c'est digne de roman, et pourtant tout est vrai. Et le fait de pouvoir dire « et pourtant tout est vrai », même si on utilise de la fiction, on a un petit personnage qui est un passeur, qui est inventé de toutes pièces, qui est aussi une synthèse de personnages, qui est la synthèse des 5 journalistes qui ont travaillé dessus. Et le fait de pouvoir l'affirmer, ça donne une force supplémentaire au récit. Le fait de lire Tarnac, Magasin Général, et de savoir que tout est vrai,
écrit par David Dufresne,
ça donne une force au récit.
Benoît Wittkind ?
Moi, je trouve l'ambiguïté plutôt dangereuse, néfaste, parce qu'elle induit en erreur, parce qu'elle brouille des limites qui sont, alors je suis peut-être vieux jeu là-dessus, mais elle brouille des limites qui sont
le monde.
C'est normal.
Voilà.
On a laissé la parole à Hubert Beuve-Méry pour commencer. Je lui fais honneur. Non, mais elle brouille des limites qui sont déjà très très brouillées, et qui, je pense, n'ont pas besoin d'être plus brouillées que ça. Ce qui permet de lever l'ambiguïté, c'est le médium utilisé. Alors là encore, je prêche pour ma paroisse. Mon journal affiche assez clairement le contrat de lecture avec ses lecteurs. Moi, quand je fais un roman, il y a marqué roman dessus. Personne, je ne suis en droit d'exiger de personne qu'il me croie sur pièce. Ce qui fait que je peux affirmer que ce qui est dedans est à 99% basé sur des choses réelles et que le dur, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que tel personnage ait dit telle chose avec tel papier peint ou bien que le contexte dans lequel il se situe soit réel ? Pour moi, c'est plutôt la deuxième chose. Ce qui permet d'affirmer que c'est vrai, c'est que je l'affirme, ça vaut ce que ça vaut, et c'est que le dur est très facilement vérifiable et là, chacun peut s'y retrouver.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un autre grand journaliste qui s'est essayé aussi au roman. Il s'appelle Sorge Chalandon. Il était invité du Grand Atelier de Vincent Josse sur France Inter en mai 2018. Il parlait de son roman qui s'appelle Le Jour d'avant, qui est inspiré de la mort de 42 mineurs à Liévin, dans le Pas-de-Calais, en 1974. Alors qu'il était très jeune journaliste à Libération, il n'a pas couvert cet événement, mais son traitement politique et médiatique l'avait rendu fou, disait-il. Il avait décidé donc de rendre hommage à sa manière aux victimes avec ce roman. On l'écoute.
Tout ce que Serge Julie et tout ce que nos envoyés spéciaux là-bas nous rapportaient n'avait aucun rapport avec ce qu'on entendait à la télé, à la radio. C'est-à-dire que le mot qui revenait en boucle, et c'est un mot qui pour moi est un mot odieux, c'est le mot fatalité. C'est comme si la mort du mineur était inscrite dans son contrat de travail. Un mineur meurt, et ben oui, c'est normal, c'est la fatalité. Il y a 42 hommes qui descendent au fond, qui descendent dans une, comme vous l'avez dit, dans une fosse de mine qui n'a pas été dégrisoutée, qui n'a pas été dépoussiérée, qui n'a pas été humectée. Ces hommes descendent dans un véritable lance-flamme. Et il y a 42 morts, et moi je suis jeune, je suis gamin, et brusquement chez moi, dans mon pays, moi qui ai toujours cru que le travail c'était le lieu de la fraternité, du respect et de la dignité, je m'aperçois que le travail, ça peut être une fosse commune.
Et des années après, des dizaines d'années après, vous faites un roman. Et comment cette fiction-là naît ?
Je m'étais toujours dit, je veux rendre hommage à ces hommes. Je ne sais pas comment. Il fallait que chaque mot soit un hommage.
Oui, parce qu'ils n'ont pas eu de deuil national.
Ils n'ont pas eu de deuil national. Ouais.
Vous écrivez « La France a oublié de dire adieu à ses mineurs ».
C'est même pire que ça. La France s'est souvenue qu'il y avait des mineurs lorsqu'on a appris qu'ils étaient morts. Et ben, pendant des années, je me suis dit, il faut que je leur rende hommage. Et pour le 40e anniversaire, je vois à la télé très très brièvement Monsieur Manuel Valls qui rend hommage aux mineurs, avec les vieux mineurs qui ont mis leur casque, avec leurs gamins. Et quand on voit ces mots en face, avec leurs parents, leurs grands-parents, toutes ces années après, qui disent, mais pourquoi vous nous avez laissé tomber? Ben, je me suis dit, tiens, voilà, 40 ans après, tant pis, c'est le moment.
On sent votre émotion.
Oui, je suis en colère, mais c'est...
Quand vous étiez journaliste, vous interdisiez les larmes.
Non. J'interdisais de les écrire. Comme tout le monde, c'est-à-dire, j'ai vu de nombreux journalistes pleurer et des photographes aguerris qui baissent leur appareil photo, qui se tournent et qui pleurent. Mais ça, on n'a pas le droit. Je veux dire, je peux pas faire un article pour dire au lecteur je pleure. Ça a aucun sens. Donc je parle des larmes des autres, je parle de l'effroi des autres, je parle de la stupeur des autres, je parle de la colère des autres. Mais mes larmes, ma stupeur et ma colère, j'en fais quoi, moi? J'en fais des romans.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Voilà, c'était Sorge Chalandon, invité du Grand Atelier sur France Inter, le Grand Atelier de Vincent Josse, en mai 2018, évoquant son émotion vis-à-vis d'un fait historique qu'il n'avait pas vécu, mais qu'il voulait absolument retranscrire dans un roman, à propos des larmes qu'il n'avait pas versées ou qu'il avait envie de verser, et qu'il voulait donc, par le roman, cette émotion, la faire transparaître dans ce mode fictionnel qu'est le roman. Je rappelle que nous sommes avec vous trois pour évoquer dans le temps du débat cette question: qu'apporte la fiction au journalisme? David Dufresne.
Alors, il se trouve que j'ai travaillé avec Sorge Chalandon. Il était mon chef à Libération, donc j'entends tout à fait ce qu'il dit, je comprends, et j'avais pas entendu cette interview. Avec mon bouquin Dernière Sommation, je suis exactement dans la même démarche que lui. J'imagine pour ça que vous m'amenez là-dessus, mais on voit qu'un des personnages, évidemment, il est en pleurs devant cette violence policière, ces mutilés, ces gens qui perdent un œil, qui perdent une main, qui perdent la vie
pendant les manifestations des Gilets jaunes.
Parce que il manifeste, etc., et que ça m'est insupportable pour les mêmes raisons que Sorge, c'est-à-dire que voilà, dans une république qui se dit républicaine avec une police républicaine et qu'il y a des gestes qui ne le sont pas et que tout le monde s'en fout, ben à un moment donné, chacun ses armes. Et il se trouve que en parallèle des signalements, je vais écrire au départ à titre personnel. Mais évidemment, j'espère très vite que l'exutoire que c'est pour moi devienne catharsis pour le lecteur. Parce que sinon, si c'est que pour moi, c'est pas très intéressant. Mais c'est là où je pense que la fiction a une puissance sans commune mesure par rapport à la réalité. Parce que la réalité, l'actualité dont vous parliez là tout à l'heure, en fait, elle était plus ou moins décrite, plus ou moins niée, et ça bougeait pas tellement. Et il me semble que par l'observation du réel par la littérature, on peut aller beaucoup plus au fond des choses, beaucoup plus dans les couches dont vous parliez tout à l'heure.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Un titre de Rag & Bone Man. Benoît Vidkin, dans votre livre Donbass, vous décrivez donc ce conflit entre forces pro-russes et pro-ukrainiennes dans cette région du Donbass. On se demande parfois si ce qu'on a appelé aux États-Unis le New Journalism, c'est-à-dire tout ce qui était dans la foulée de Hunter Thompson ou de Tom Wolfe, cette façon de raconter le monde par le narratif, et qu'on connaît aujourd'hui d'une certaine manière avec des revues comme 21 qui ont des grands reportages de très très longue durée de ce type-là. Est-ce que cette question justement de revenir à raconter des histoires, revenir au narratif pour pouvoir faire son métier de journaliste, est-ce que cela induit justement un pas supplémentaire, c'est-à-dire le passage à la fiction ?
Non, je pense pas forcément. Alors je suis désolé, je ne fais pas avancer l'émission parce que moi je vais rester aussi sur les mots de Serge Chalandon, ceux de David Dufresne, parce que c'est en partie une réponse à votre question. Ces mots, ils sont superbes et ils rajoutent une couche à ce qu'on a essayé un peu de définir depuis le début, qui est l'humanité, à la fois celle de celui qui écrit et celle de ses personnages en quelque sorte. S'il a envie de leur rendre hommage, c'est parce qu'il est profondément humain. Cet homme qui parle et qui explique sa démarche, et c'est parce qu'il a vu en face de lui des humains. Alors je me garde bien de me comparer, même si j'ai l'air de le faire. C'est moi aussi ce que j'ai voulu faire, pas seulement leur rendre hommage. Rendre hommage à ces deux faces de l'homme quand il est plongé dans une violence extrême. Cette face qui peut être la plus lumineuse, la plus généreuse, la plus forte qui soit, et celle qui peut être la plus mesquine aussi. C'est pour moi une forme d'hommage, c'est un hommage à l'homme, dans ce qu'il a de plus beau, de plus laid parfois. Et pour répondre un peu plus précisément à votre question, non, moi je crois pas à la nécessité de la fiction, pas du tout, du tout. Mais c'est ce que j'ai eu envie de faire à un moment précis.
Mais est-ce que Amélie Mouget, dans un contexte défini par l'expression qui a été popularisée par Christian Salmon, par exemple le storytelling, dans le contexte du storytelling, le journalisme narratif ne permet pas aux journalistes de renverser la problématique, c'est-à-dire de se dire, ben, on va pouvoir épanouir notre travail avec un souci de vigilance réaliste, alors que justement les outils de la narration sont utilisés par les pouvoirs quels qu'ils soient pour raconter une histoire fausse, d'une certaine façon, une histoire biaisée.
Oui, pour rejoindre ce qui a été dit avant, je pense qu'il y a vraiment cette reprise de pouvoir sur le récit et l'ajout d'un supplément d'âme en fait par la présence du narrateur, par la en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les deux romans
dont on parle ici, et de Daniel Frenne.
Et j'ai l'impression que oui, ça permet de redonner, enfin la mise en récit et le fait de raconter des faits d'actualité comme une histoire, ça permet de reprendre une puissance et de s'éloigner peut-être du côté froid de la quête d'informations factuelles décontextualisées. Et nous, ça redonne de l'épaisseur en fait au récit.
Et c'est ce que vous dites d'une certaine façon quand vous écrivez dans Dernière Sommation, David Dufresne, quand vous écrivez que vous vouliez reprendre le pouvoir des mots face à un pouvoir qu'il avait utilisé dans le style storytelling dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de violence policière. Vous dites, moi, j'ai témoigné et je témoigne des violences policières et je veux témoigner de cela dans un roman qui reprenne les mots.
Ah oui, très, très, très clairement, le 7 mars 2019, quand Emmanuel Macron, lors d'un grand débat, dit à une dame qui l'interpelle sur les violences policières, il lui dit « Vous ne pouvez pas parler de violences policières ou de répression, ces mots sont inacceptables dans un état de droit », voici la citation exacte, et bien là on se dit « Ok, il y a donc une bataille des mots, en plus de la bataille des armes, à mener ». Donc ça, c'est extrêmement clair. Et alors... Moi, je ne suis pas au monde et je ne suis pas aussi jeune que Benoît. Donc moi, je suis un petit peu lassé par le journalisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que...
Vous avez du mal à vous dire journaliste, d'ailleurs, aujourd'hui.
Oui, oui. Non.
C'est votre métier, au départ.
Ben, c'est-à-dire que je le fais... alors, justement, j'y viens. C'est-à-dire que je le fais, je crois, un peu différemment parce qu'au fond, informer, c'est mettre en forme. C'est simplement ça. Informer, c'est mettre en forme. Or, l'information, aujourd'hui, elle est quasiment pas mise en forme. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de larmes, pour reprendre ce que disait Chalandon là dans l'interview. Et ça, moi, ça me manque. Bien sûr que le factuel, c'est bien évidemment que c'est nécessaire, mais ça ne peut pas être l'horizon. Pour moi, ça doit être autre chose. Et quand je lis le roman de Benoît, par exemple, les pages qui me touchent le plus sont celles où il décrit, je crois que c'est la grand-mère, sous les bombes. Là, je comprends ce que c'est que d'être sous les bombes, moi qui ne l'ai jamais été, parce que je dis de mémoire, c'est pas la bombe qui tombe qui fait peur, c'est celle qui arrive après. Voilà.
C'est
ça, c'est magnifique. Je veux dire que là, je m'y intéresse à sa putain de guerre dont je ne savais rien jusqu'ici. Non, mais c'est la réalité. Enfin, je veux dire, j'imagine que c'est pour ça que vous avez fait ce roman. Je veux dire, voilà. Et je pense que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, eh bien, ces couches-là, elles ne sont pas forcément faute de place dans les papiers, dont j'imagine qu'ils sont parfaits. Albert Londres, respect, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, on passe à autre chose. Voilà, ici.
Benoît Vidkin et Amélie Mouget.
Ah ben je ne sais pas quoi répondre parce que je suis extrêmement touché par l'hommage et donc un grand merci. Et c'est évidemment ça que j'ai voulu faire. Mon envie première, mon besoin premier, alors c'est d'abord d'exprimer des choses que j'ai au fond de moi et c'est ensuite effectivement de continuer à informer.
C'est-à-dire qu'il y ait des grands morceaux d'information au sein d'un roman qui...
Et informer, c'est aussi bien rappeler. Alors mon roman se situe dans une période un peu suspendue où il se passe plus grand-chose en quelque sorte, hormis des bombes qui tombent, mais rappeler ce que j'appelle le dur du dur, ce qui s'est passé en 2014, c'est-à-dire d'où on vient, et informer, c'est également effectivement dire ce qui est assez difficilement dissible ailleurs, quel effet ça fait une bombe dans la tête, sur la cage-côte thoracique qui se contracte, des choses comme ça. Pour autant, là je dis, malgré l'hommage, je reste fondamentalement pas d'accord. C'est effectivement une question de point de vue, peut-être de croyance, c'est peut-être très mystique tout ça. Moi, je me sens journaliste pur et dur avant tout. C'est à ce monde-là que, non seulement que j'appartiens, mais que je fais confiance. Pour autant, alors à mon tour de vous rendre hommage, votre livre, il respire...
Passe-moi la rhubarbe, je ne sais pas se s'aimer, c'est bon.
il respire le vrai et le réel. Mais je n'y... De là, je ne tire pas spécialement une hiérarchie du médium qui permet le mieux d'informer, de faire sentir. En quart de seconde encore, Albert Londres ou pas Albert Londres, oui, j'ai toujours été attaché, et je ne suis pas le seul... dans ma maison, mais c'est le cas ailleurs, à faire sentir l'humain derrière. C'est pas que la recherche factuelle. On n'est pas les plus, quand on va sur un terrain en plus comme celui-là, on n'est pas les plus armés pour trouver le factuel. Vous avez des agences de presse qui ont des dizaines de correspondants, des médias locaux qui connaissent infiniment mieux les gens, la région. Donc on fait du factuel de temps en temps pour montrer les logiques, montrer les mensonges des uns et des autres. Mais notre travail, c'est aussi de montrer l'humain derrière.
Mais les gars qui sont sur le front, les Ukrainiens, soldats, ils connaissent aussi bien l'épopée de Napoléon que ce que vous racontez dans votre propre roman, en l'occurrence Benoît Vidkin, parce que quand même ils sont sacrément calés sur l'avancée de l'armée napoléonienne jusqu'à Moscou et sa débâcle ensuite vers la Bérézina.
Mais alors ça c'est drôle parce que ça fait partie des passages, et il y en a quelques-uns qui sont un calque de la réalité. Ces mots-là, je les ai entendus quasi mot pour mot dans des tranchées avec des soldats qui ont des discussions. D'un télo, c'est un bien grand mot. En Russie et dans l'ensemble de l'ère régionale autour de la Russie, on connaît sans doute beaucoup mieux Napoléon qu'en France. C'est une première réponse. Et oui, ce sont des scènes que j'ai vues. Et d'ailleurs, c'est finalement pas celles que j'ai pris le plus de plaisir à écrire. Et j'ai l'impression, pas celles qui fonctionnent le mieux et qui sonnent forcément les plus justes.
Elles sont pas mal, c'est là. Très bien. Je vous rassure. Amélie Mouget.
sur la question des émotions, de ce qui peut passer à travers une histoire, nous, on a la possibilité de s'extirper de ce débat grâce au dessin. Parce qu'en fait, on peut avoir...
Dans la revue dessinée.
Dans la revue dessinée, on peut avoir des visages qui se décomposent, des personnages qui, mis face à leurs contradictions, passent au vert. Enfin, on peut jouer de la couleur, on peut jouer de la sensibilité du dessin pour cette mise en forme dont parlait David Dufresne. Et je rebondis sur cette question de la mise en forme qui, pour nous, est extrêmement importante. Les faits bruts, ça fait pas une histoire en bande dessinée.
Et vous appelez procédé fictionnel.
Tout à fait. Mmh. On arrive, par exemple, à recomposer, à donner de l'épaisseur à une histoire en allant chercher son origine. On a coédité un album qui s'appelle Algue verte, l'histoire interdite, où on revient sur 50 ans d'Omerta en Bretagne, un scandale sanitaire.
Tiré d'enquêtes qui ont été faites d'ailleurs pour France Culture. Par une productrice de France Culture.
Tout à fait. Et en fait, ça nous permet de remonter jusqu'au remembrement et ça nous permet de raconter le ressenti de ces personnes face à un territoire qui change, face à une agro-industrie qui... Et tout ça, ce serait impossible, difficile, sans avoir recours à certains procédés fictionnels.
Voilà, c'était Inès Leroux qui avait signé. Avec quel dessinateur?
Avec Pierre Vanhove. Avec
un dessinateur, c'est ça. Chez vous, cette question et cette grande enquête qui d'ailleurs a beaucoup de succès sur les algues vertes. Je vous propose d'écouter un autre journaliste romancier. Il s'appelle Roberto Saviano. Il est journaliste et écrivain italien. Il a été interviewé en 2018 sur France Inter à propos de son roman qui s'appelait Piranha et qui racontait l'histoire d'un groupe d'enfants entre 12 et 18 ans et qui était parvenu à prendre le pouvoir au sein de la mafia napolitaine. Il explique pourquoi il a choisi justement la fiction pour raconter cette histoire.
Passer au roman, ce n'a pas été pour moi un grand passage parce que mes livres précédents c'était aussi des romans mais c'était de la non-fiction. Ici j'ai choisi de faire un roman inspiré des faits réels, comme ça je pouvais rentrer dans le corps de ces enfants, pas m'arrêter à la frontière de leur corps comme je faisais avec mes livres précédents. Je voulais protéger le nom de ces enfants, criminels, mais toujours mineurs. Et je voulais essayer de raconter les émotions. Et donc, pour le faire, il fallait que je fasse juste de la littérature.
Pour faire raconter les émotions, il faut faire de la littérature, David Dufresne. C'est tout de même assez proche de ce que disait tout à l'heure sur Chalon.
Oui, non, mais on tourne tous autour de ça. Jules Vallès dans L'Insurgé, Vallès, il est journaliste.
Ça, c'est une citation.
Ah bah ouais. Ah bah, oui, vous rigolez, oui. L'Insurgé.
Ah ben, bah, on est d'accord, on est d'accord.
On est à France Culture, enfin, je veux dire, il faut quand même, voilà. Il se plaint de ça. Je crois qu'il travaille au Figaro à l'époque. Il raconte quoi que c'est infernal pour lui. En fait, il place ses papiers comme il peut. Et puis bah voilà, il écrit sa trilogie magnifique. Enfin, si vous voulez, je crois que l'émotion, on va dire pure, elle passe par la littérature. Oui, parce que le reste est tellement fabriqué. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le journal de 20 heures? C'est une pièce de théâtre absolument incroyable, où il y a des gens qui en invitent d'autres, qui disent tu vas parler à tel moment, à tel endroit, derrière tel reportage, totalement fabriqué, archi-codé, et qui est vendu comme quelque chose de neutre, et qui est tout sauf neutre. Et la littérature, elle permet de dire ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre.
Benoît Vidkine, quand vous avez fait vos enquêtes dans le Donbass, que vous les avez publiées dans Le Monde, vous aviez déjà l'idée que peut-être il y aurait derrière un roman qui pourrait venir pour dire autre chose que ce que vous aviez déjà raconté?
Non, j'ai eu l'idée vraiment tard. J'ai été finalement pas très original, j'ai eu l'idée. Alors le roman se déroule dans une petite ville qui permet de créer un huis clos et une petite ville qui s'appelle Avdiivka. Et pour l'anecdote, c'est après avoir passé avec deux collègues une semaine en continu dans cette ville à dormir dans les abris antiatomiques de l'usine de coke, qui est aussi un personnage de l'usine, qu'en sortant...
Enfin, l'usine de coke, précisons, c'est de la coke noire et c'est pas de la coke blanche.
C'est le coke, du coup. En sortant, donc ça vous met un peu sur les nerfs, une semaine comme ça, et en sortant, on croise sur le bord de la route un bonhomme qui marche avec sa faux sur l'épaule, et on éclate tous de rire nerveusement, en se disant, l'un, je sais plus qui dit, il manque plus qu'un psychopathe dans ce foutoir, et je leur dis, je vais le faire. Donc l'idée vient de là, elle vient pas. J'ai jamais travaillé en ayant le roman en tête. Je l'ai fait ensuite un peu, par exemple, en allant creuser des milieux que je connaissais moins, par exemple la police.
C'est-à-dire, c'était en allant les voir, vous pensiez justement que cette question de la fiction était une bonne manière ?
En faisant mon travail de reporter, je n'y pensais pas du tout. Et ensuite, quand j'ai eu cette idée de roman, je me suis rendu compte qu'il y avait une clé qui me manquait. Les autres, je les ai pour avoir vraiment pratiqué cette région beaucoup. Et cette clé, c'était ce qu'est être flic dans ce coin-là. Et donc là, j'ai parlé à deux anciens, dont l'un d'ailleurs toujours en poste, mais deux anciens policiers de cette région qui pouvaient me dire des détails. Parce que l'émotion, évidemment qu'on peut la créer avec de la littérature, on peut même la créer très facilement, voire parfois trop facilement. Et pour autant, est-ce que ce qu'on va transmettre par cette émotion est valable? C'est ce dont on discute depuis tout à l'heure. Moi, je crois que ça vient là encore. Saviano, pourquoi est-ce qu'on y croit? Parce qu'on sait ce qu'il a fait par ailleurs. Je sais que c'est une question très controversée, polémique, parce que qui va être l'arbitre des élégances et celui des tampons valables, pas valables? Moi, je crois encore en certaines institutions. Mon journal en fait partie. Donc, je revendique cette vision-là.
Amélie Mouget, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez, quand vous réfléchissez à votre travail de rédactrice en chef de la revue dessinée, le terme de fantaisie. Fantaisie au sens, effectivement, une sorte de capacité à justement s'abstraire de la littérature, de la réalité, pour pouvoir justement faire entrer par la fantaisie, et la fantaisie ça peut être le dessin aussi, faire entrer quelque chose qui n'est pas forcément dans le journalisme habituel.
Oui, en fait, on fait un journal. Notre pratique du journalisme implique l'usage de différents registres. On va avoir des registres humoristiques, épiques. On va être sur des territoires qui sont pas forcément habituels dans la pratique du journalisme. Et puis, ça permet de l'autodérision. Par exemple, à certains moments, on parle des banques de biodiversité, on décortique un mécanisme complexe, et puis apparaît un personnage de fiction qui nous dit « Non mais arrêtez, là, la revue dessinée, vous êtes toujours dans le dénigrement et l'ironie. » Et donc, du coup, on fait un pas en arrière, par cette autodérision, on recapte l'attention du lecteur.
Ça vient de la bande dessinée, c'est-à-dire ça vient de Tintin, ça vient de tout un tas d'autres. Enfin, ça vient des Dupont et Dupont qui permettent justement à ce que l'action avance d'un côté et que de l'autre côté, on le regarde avec beaucoup d'ironie, par exemple.
Exactement, et ça nous permet de traiter de manière drôle des sujets extrêmement complexes, les emprunts toxiques, les partenariats public-privé. On va tenir en haleine le lecteur, on va le faire rire et sourire sur des mécanismes économiques. Qui serait rébarbatif autrement qu'en bande dessinée. Et on s'autorise, et on le met dans par exemple, Algue verte, l'histoire interdite, on a un petit avertissement au début pour dire qu'il y a évidemment de la reconstitution, il y a évidemment de l'ironie, et c'est en ça qu'on parle de fantaisie.
Merci à tous les trois. Merci à Amélie Mouget d'être venue pour cette discussion dans le temps du débat autour de la fiction comme peut-être une manière de sauver un certain journalisme ou de venir par surcroît, au-dessus du journalisme traditionnel. Merci à vous, David Dufresne. Je rappelle que Dernière sommation est parue chez Grasset à la rentrée dernière et que Benoît Vidkin, vous êtes l'auteur de Donbass aux éditions Equinox Les Arènes. Merci à tous les trois.
Merci. Merci.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Manon Prissé, à la documentation Caroline Chausset, à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Assia Ralide.